Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Avec Anaïs de Moustier, elle incarne une avocate générale aux assises dans le film, La fille au bracelet. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans Les Indispensables, de l'humour avec Luce Bernard et des musiciens américains engagés avec Angèle Châtelier. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture évidemment qui démarre par le palmarès des Oscars. C'était cette nuit, la cérémonie a eu lieu à Los Angeles. Elle s'est terminée très tôt ce matin, heure française, et donc plus de suspense, ça y est.
Et non, nous les attendions, ces résultats des Oscars 2020. Une cérémonie qui a débuté vers 2h30, heure française. Elle s'est terminée vers 5h45. Alors un palmarès quasi, je dis bien quasi sans surprise.
Ah bon ?
Et oui, l'Oscar du meilleur acteur revient à Joaquin Phoenix, évidemment pour son interprétation magistrale du Joker. L'acteur a livré un discours assez émouvant. Il a notamment évoqué son frère disparu en 1993.
Lorsqu'il avait 17 ans, mon frère a écrit ces quelques mots. Il m'a dit « Cours après l'amour et la paix suivra ». Merci beaucoup.
Voilà, Renée Zellweger repart avec l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Judy, biopic sur l'actrice Judy Garland, film européen. Brad Pitt obtient le premier Oscar de sa carrière avec l'Oscar du meilleur second rôle masculin dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et puis le carton plein, Philippe, pour le film sud-coréen Parasite. 4 Oscars, meilleur film étranger, meilleur réalisateur, meilleur scénario. C'est le premier film étranger à remporter le meilleur film et le meilleur film international. Il rentre donc dans l'histoire. Alors vous l'avez compris, rien pour Les Misérables de Lajli, mais quand même le bonheur d'avoir été nommé aux Oscars. Le palmarès complet à retrouver sur Europe1.fr.
Oui, quand même, c'était une surprise, parce qu'il n'y a rien eu pour 1917 et il n'y a rien eu non plus pour Joker.
1917, meilleur effet spéciaux, et ce sont des Français.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, c'est important de le signaler.
J'ai entendu ça sur Europe ce matin, chez Mathieu Béliard. On va continuer dans les cérémonies, mais cette fois-ci en France, avec les Césars. Alain Terzian, le président de l'Académie des Césars, a pris la parole hier dans le journal du dimanche.
Première prise de parole après la polémique concernant les 12 nominations du film de Roman Polanski, J'accuse. Alors, différentes associations appellent au boycott de la cérémonie qui aura lieu le 28 février prochain. Alors, que retenir de cette interview ? Alain Terzian reconnaît un climat compliqué. Il souhaite la parole dans le collège des votants, un total 50-50. Il prévoit donc 700 ou 800 femmes de plus. Il déclare, je cite, « Le 50-50 sera mis en application à tous les niveaux. Il est vital d'arriver à la parité. » Et concernant les nominations de J'accuse, Alain Terzian affirme qu'il n'a pas à avoir d'avis sur les nominations, mais que s'il y a autant de femmes que d'hommes qui votent, ça changera peut-être les nominations et le palmarès. Le César d'honneur, quant à lui, n'a pas encore été décidé. Jane Fonda et Meryl Streep ne sont pas disponible. On s'attend donc à une femme pour ce César d'honneur.
Et puis on continue avec une triste nouvelle, c'est qu'on se nostalgie, en tout cas pour moi, la disparition d'une légende du petit écran, Robert Conrad.
La star des années 1960-1970, connue, reconnue pour son rôle dans les séries Les Mystères de l'Ouest, où il interprétait James West. Il a également joué dans la série Les Têtes Brûlées en tant que Papy Boyington. Alors Robert Conrad est décédé à l'âge de 84 ans. Le porte-parole de la famille Conrad a déclaré « Il a vécu une merveilleuse longue vie alors que sa famille est attristée en raison de sa disparition. Il vivra pour toujours dans leur cœur. » Robert Conrad a fait des apparitions aussi dans Mission Impossible. Sachez aussi que Les Mystères de l'Ouest, c'est le film qui a servi de base à Wild Wild West avec Will Smith.
Tout à fait autre chose, le réalisateur de Rocketman veut s'attaquer au groupe The Clash pour son prochain film.
Le réalisateur Dexter Fletcher continue sa route dans les biopics musicaux. Rocketman sur Elton John, Bohemian Rhapsody, film sur le groupe Queen où il était arrivé en cours de tournage. Et aujourd'hui, il prévoit donc un film consacré au groupe The Clash. Il a quand même déclaré qu'il n'allait pas se presser. Il va prendre son temps pour tout ça. En attendant, certains lui demandent de réaliser un film sur George Michael, mais il n'est pas très très emballé par l'idée.
On va continuer avec un autre showman, Bruno Mars, qui pourrait créer une comédie musicale en collaboration avec Disney.
Information du média Deadline, des mois et des mois de négociations, le projet serait en train de se mettre en place. Bruno Mars va jouer, composer, interpréter les chansons de ce long métrage théâtral consacré à la musique. Alors on n'en sait pas plus pour le moment. Bruno Mars confirme encore une fois ses multiples talents. Je rappelle qu'il a vendu 200 millions d'albums à travers le monde.
Et puis on va terminer par une bonne nouvelle, quoique celle-ci en était une, c'est l'exposition Léonard de Vinci au Louvre qui va finir en beauté.
Oui, puisque pour ces trois derniers jours, il y aura un dispositif exceptionnel. Les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 février, les visiteurs pourront venir de 21h30 à 8h30 du matin. Vous l'avez compris, donc toute la nuit. L'entrée sera gratuite, mais sur réservation obligatoire. Vous pouvez réserver dès demain à partir de midi sur le site louvre.fr. 30 000 places seront proposés. Alors 40 salariés volontaires du Louvre seront mobilisés. L'exposition qui a démarré le 24 octobre dernier pourrait battre le record de fréquentation qui est à 540 000 personnes. Il est pour le moment détenu par la rétrospective de la Croix en 2018.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
À tout à l'heure.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et tout de suite, vous recevez Philippe, Anaïs de Moustier.
Et quel plaisir et quelle chaussure. Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, je vais citer Paris Match. À 32 ans, elle a la filmographie la plus irréprochable de sa génération, de Bertrand Tavernier à François Ozon, de Claude Miller à Robert Guédiguian, en passant par le délirant Quentin Dupieux. Et vous ajoutez un nom à cette liste prestigieuse, le vôtre, car à partir de mercredi, vous serez à l'affiche de La Fille au Bracelet, signé Stéphane de Moustier. On ne va pas faire de mystère, c'est votre frère. Et on va évacuer tout de suite la question. Tourner sous la direction de son grand frère, c'est plus facile, c'est plus difficile, ou ça change rien ?
Non, ça change pas rien, ça change beaucoup. Ça change déjà qu'on est, comme on est complice avec mon frère, on se comprend très vite, donc tout va plus vite. C'est plus simple en fait. Ça m'a paru très évident et très naturel de travailler pour lui. Après, il y a la pression en plus de pas vouloir décevoir le metteur en scène, mais mon grand frère surtout.
L'histoire, La Fille au Bracelet, c'est pas une série sur la mode, c'est un film juridique, un film de procès. C'est également la radiographie d'une famille. Et le bracelet, c'est celui que porte une jeune femme de 16 ans accusée d'un meurtre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas si elle est accusée à raison ou à tort.
Voilà.
Racontez l'histoire.
C'est exactement ce que vous avez dit là. Effectivement, le film raconte le procès d'une jeune fille qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Cette jeune femme a 16 ans et on suit le procès du point de vue des gens qui l'entourent et notamment sa famille, son père, sa mère. Voilà. Et le film, c'est le temps du procès.
Elle est incarnée par Mélissa Gerst, dont c'est le premier rôle et qui est absolument remarquable. Il y a également dans le film Roche Dizem et Chiara Mastroianni. Vous-même, qui est votre personnage ?
Alors moi, je joue l'avocat général, en cours d'assises.
C'est la procureure.
Voilà, exactement. Moi, je suis chargée de porter l'accusation. Donc, je suis un personnage qui est plutôt très à charge, et qui cherche à prouver à tout le monde que cette jeune femme est coupable d'avoir tué sa meilleure amie.
C'est votre rôle, mais pas seulement. Bonne annonce.
Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable.
Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ?
On était amis, meilleurs amis. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise ?
Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être.
Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas ? Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile ?
Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi ? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout.
Très très bonne, très, très bonne réplique de fin. Vous deviez pas être dans ce film ?
Non, je ne devais pas.
Non pas, vous
ne
deviez pas y être, mais parce que vous n'êtes pas un homme de 60 ans.
De 60 ans, voilà, c'était l'idée de départ.
Expliquez l'histoire.
En fait, mon frère avait pensé pour ce rôle-là, effectivement, à un homme de 60 ans. C'était ce qu'il avait dans son imaginaire, dans le rôle du procureur. Il pensait que ça serait plus crédible. Et puis, en fait, il a assisté à beaucoup de procès d'assises, notamment au tribunal de Bobigny. Et il s'est aperçu, en observant ses audiences, que souvent, c'était des jeunes femmes autour de 30 ans. Et donc, il s'est dit, tiens, je pourrais peut-être proposer le rôle à Anaïs.
Est-ce que vous avez fait comme votre frère ? Vous êtes allé voir des procès, des procureurs, des justiciables pour préparer le rôle ?
Oui, je suis allée avec lui à Bobigny. Après, moi, je n'avais pas spécialement besoin d'y aller beaucoup. Mais il m'a suffi de quelques fois pour me dire que le travail qu'on allait devoir faire et le travail qui allait moi m'intéresser le plus, c'était de retrouver, de retrouver la musicalité qu'il y a dans les tribunaux, qui est vraiment une musique spéciale qui n'a rien à voir avec la vie, qui n'est pas non plus complètement du théâtre, mais quand même un peu, parce qu'il y a de la théâtralité là-dedans. Et donc, ça a été un travail passionnant.
Vous avez raison, évidemment que vous avez raison. De toute façon, l'invité a toujours raison. Mais quelque chose m'a frappé, c'était le président, le comédien qui joue le président du tribunal. Il avait une manière de parler que je n'avais jamais entendue. Et j'ai découvert après, en travaillant l'entretien, que c'était un avocat.
Voilà, et donc, Pascal Pierre Garbarini.
Il parlait comme dans les procès.
Exactement.
Alors, ce qui a frappé votre frère quand il allait voir ses procès, c'était que l'avocate générale, c'est souvent des femmes jeunes parce qu'il y a un manque dans cette profession, et elles sont extrêmement vindicatives, comme si elles étaient plus royalistes que le roi, presque acide.
Oui, effectivement, mon personnage est assez rigide, elle est très virulente, véhémente, et elle attaque le personnage de Mélissa Gertz, l'accusée, sur des questions qui parfois n'ont rien à voir avec le droit. Elle sort un peu du cadre et elle l'attaque sur des questions morales, en fait, sur ses mœurs, sur sa liberté sexuelle. Et c'est effectivement très surprenant. Moi, quand j'ai lu, j'ai un peu halluciné. J'ai dit à mon frère, mais t'es sûr, elle est vraiment horrible. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Et il m'a dit qu'il avait effectivement constaté ça à plusieurs reprises. Quoi,
non, que... En même temps, il est quand même question de vidéo porno. Donc en même temps, c'est un peu normal de poser des questions sur la moralité. Je suis en train de défendre votre personnage, moi, vous voyez. Il y a une grosse séquence d'interrogatoire dans le tribunal entre vous et Roche Dizem. On écoute.
À présent, j'aimerais que nous évoquions l'arrestation de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre version des faits ?
Nous étions à la mer, la police est arrivée, a demandé à lui parler, et elle les a suivis.
D'accord, donc vous n'avez pas observé de résistance de la part de votre fille ?
Ça a été rapide.
Oui, précisément. Cela signifie qu'elle n'a pas contesté, n'est-ce pas ?
Quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucune raison de vous enfuir.
Bon, elle aurait pu simplement demander pourquoi on venait l'interpeller de la sorte, ou du moins s'en étonner.
Elle était étonnée.
Ah, vous avez l'impression qu'elle était surprise ?
Oui, bien sûr.
Comment a-t-elle manifesté son étonnement ?
Je ne sais pas, elle était étonnée, c'est tout, ça se voyait à son expression.
Lorsque votre fille s'est éloignée, quelle a été votre première réaction ?
J'ai demandé au policier ce qu'il lui voulait.
Vous étiez surpris ?
Forcément.
Voilà, vous êtes surpris, vous demandez ce qui se passe, vous posez des questions. Comment expliquez-vous que votre fille n'ait pas exprimé sa surprise aussi simplement que vous l'avez fait ?
Je vous ai dit qu'elle était surprise.
Oui, mais pour autant, elle n'a rien exprimé verbalement de sa surprise.
Et vous avez même dit, j'ai eu du plaisir à être méchante, c'est-à-dire...
Bah, j'ai eu du plaisir à ne pas jouer un personnage qui est immédiatement sympathique, oui, parce que c'est la mauvaise foi, tout ça, c'est jouissif à faire.
C'est vrai ?
Ouais, carrément.
C'est tout moi. Vous restez avec nous, Anaïs de Moustier.
Anaïs de Moustier, dans La fille au bracelet, vous jouez une avocate générale, froide, très dure, ce qui est à l'opposé de vos anciens rôles, mais aussi de votre personnalité. Et ça, on va bien le comprendre avec le portrait inattendu d'Hélène Manarino, qui arrive dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le portrait inattendu d'Hélène Manarino, c'est tout de suite, Philippe.
Anaïs de Moustier, vous ne connaissiez pas Hélène Manarino ?
Non.
Et pourtant,
non.
Vous avez passé votre enfance à quelques kilomètres l'une de
c'est
l'autre.
Vrai.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour Anaïs de Moustier.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Mougli, Ninis, vos surnoms, entre autres.
Mougli.
Oui, c'est Nice-Nice.
Mais oui. Nice-Nice. On peut aussi dire la môme du nord de la France, bercée par son enfance par une autre môme et son hymne. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, votre hymne à l'enfance est marqué par une vie de famille remplie de surprises et de petits bizutages, notamment de la part de votre frère et de votre sœur. Votre frère déjà qui vous a longtemps fait croire qu'il y avait un huitième jour dans la semaine, nommé Vosy.
Il vous promet... C'est Groland.
Il vous promettait de nombreux cadeaux que vous alliez pouvoir recevoir ce jour-là, sauf qu'ils n'existaient pas. Et oui. Il vous réveillait souvent à 23h pour vous dire que c'était l'heure d'aller à l'école. Alors vous preniez votre petit déjeuner, votre douche, vous mettiez vos vêtements et vous alliez réveiller votre maman pour lui dire « Maman, c'est l'heure de l'école ». Elle vous invitait gentiment à aller vous recoucher, Anaïs.
C'est bien. Pardon, juste un mot, Anaïs. Votre frère, c'est Stéphane qui a fait le film.
Oui, c'est lui. C'est lui.
C'est lui. Alors... Le film sort Vosy.
La revanche.
Môme Anaïs, vous avez surtout connu quelques frayeurs. Vous étiez terrorisée par Carlos, le terroriste, et votre frère vous faisait croire qu'il était dans la rue. Et aussi frayeur de la part. De... Tout est vrai. Hein.
C'est
comment
génial.
Vous savez ça ?
Et aussi frayeur de la part de votre sœur qui, une fois vos parents partis, vous affirmait que ce n'était pas votre sœur,
oui,
mais
oui,
un fantôme,
oui.
Un esprit.
Oh, mon Dieu.
Une sœur qui prenait le soin de vous préparer toutes vos Barbies, poupées, même vous inventer une histoire pour que tout tout soit prêt, vous vous installiez pour jouer. Alors malgré ces petites blagues fortes, vous avez toujours su tenir. Heureusement qu'il y avait celui qui représentait votre véritable hymne à l'amour. Il était votre raison de vivre. Son poster occupait toute votre chambre. C'est le joueur de tennis, Gustavo Kuerten. Vous étiez prête à tout pour le voir. Vous alliez à Roland-Garros, vous passiez les barrières, sans place, mais visage de petite fille modèle. Tout le monde vous laissait passer. Et oui, vous étiez insoupçonnable. Alors, il ne faisait pas le poids face à votre maître nageur de Madrid. À l'âge de 18 ans...
Oh là, les doses, disons, ça, ça commence à tomber, hein.
C'est vrai.
Elle n'est jamais allée aussi loin.
J'hallucine.
Mais non. À l'âge de 18 ans, vous étiez en stage dans la capitale espagnole, dans un supermarché. Vous n'y êtes jamais allée.
Si,
vous
quand avez, même un peu.
Vous avez prétexté un arrêt maladie, sauf que vous passiez votre temps à la piscine avec ce maître nageur, votre homme à la moto.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos.
Autre chanson préférée, signée Edith Piaf. Alors oui, quelques hommes vous ont fait tourner la tête, mais à l'école, vous étiez imperturbable, excellente élève même. Pendant vos tournages, vous révisiez vos cours. On ne pouvait rien vous dire, camarade exemplaire. Lorsque vos copains de classe se faisaient disputer par la maîtresse, vous pleuriez régulièrement, puisque, et encore aujourd'hui, vous détestez les conflits et l'autorité. Alors, vous préfériez rêver des heures devant la VHS de Sissi, l'impératrice. En revanche, Anaïs, votre faiblesse, les goûter. Vous demandiez à votre maman de ne pas vous en faire pour piquer celui des autres.
C'est vrai.
Mais oui.
Non, je crois que j'en avais pas. Et parfois, je disais, si tu me fais pas ton goûter, je suis plus ta copine.
Wow.
Horrible.
On l'a tous fait, ça, non?
Non.
Puis elles avaient des trucs dingues, la pique-nique break et tout. Moi, j'avais un vieux pain nul avec du chocolat.
Alors, aujourd'hui, ce sont vos copines qui se battent pour manger votre fantastique salade de quinoa, Anaïs de Moustier, pendant que vous, vous vous gavez de pain au chocolat, de profiterol et bien évidemment de Welsh quand vous rentrez à Lille. Votre hymne à la joie, Anaïs de Moustier, vient aussi de vos copines, toutes vos copines du collège, lycée, avec qui vous avez tourné quelques pubs avec votre caméscope et avec qui vous vous êtes surtout déhanché sur ça. Eminem, Slim Shady, évidemment. Aujourd'hui, c'est avec votre petite fille que les chorégraphies s'enchaînent. Vous adorez faire la fête. D'ailleurs, vous tenez très très bien l'alcool, apparemment, précisons-le. Votre hymne de la vie paisible, c'est à Annecy. Vous adorez vous rendre. Vous êtes capable très régulièrement aussi de vous coucher à 21h30 avec une tisane. Mais oui, il vous faut des forces, Anaïs, notamment pour pratiquer toutes les activités auxquelles vous vous êtes inscrite. Barre au sol, danse africaine, par exemple, ou partir à la rencontre de tous les gourous parisiens. Alors en revanche, il y a une activité qui n'a pas eu de succès, c'est le vélo électrique. Vous l'avez eu, mais vous ne vous en êtes jamais servi. Alors vous aimez être en mouvement, partir pour être face à la mer, contradictoire pour quelqu'un qui déteste par-dessus tout faire sa valise. Alors Anaïs de Moustier, aujourd'hui, vous dites régulièrement que vous allez devenir ostéopathe. Mais en fait, jamais. Vous avez surtout fait...
Je dis jamais ça.
Vous avez surtout fait de votre passion l'hymne de votre vie, le cinéma. À 12 ans, vous rentrez chez vous pour crier « c'est moi, c'est moi ». Vous avez votre premier film. Vous partez pour tourner. Votre maman vous accompagne. Et au bout du premier jour de tournage, vous lui dites tout bas « maman, faut que tu me trouves un autre film. J'adore ça. Oh. » Alors la môme de Moustier avait vu juste. Et en plus, elle ne s'est pas trompée de voix.
C'est vous tout ça?
Merci.
Bah, c'est magnifique.
Il y a quelques petits trucs bizarres, mais ouais. Franchement, oui, globalement.
Mais
oui.
L'alcool et le maître nageur?
C'est pas un maître nageur, non. C'était une piscine universitaire, c'est qui faisait très chaud à Madrid.
Ouais, mais le bel Hidalgo.
Et on est allé avec mon amie Bertie, ma meilleure amie d'enfance. C'était génial. Le bac était. On avait eu notre bac et on travaillait à Auchan pour l'été. Et puis en fait, on avait beaucoup trop chaud, donc on passait notre temps à la piscine universitaire.
D'accord.
Et donc voilà, les gens se moquaient de nous en disant en fait, vous passez votre temps avec Carlos et Pedro plutôt que d'être au boulot.
Et vous savez quoi? Carlos et Pedro, ils sont là.
Ouais.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Culture Média et le programme continue dans quelques minutes avec votre invité ce matin, Philippe, l'actrice Anaïs de Moustier. Et on va être rejoint par Angèle Châtelier qui nous parlera politique et musique. Oui, les deux peuvent être liés. Vous allez entendre que les artistes s'engagent pour la présidence de Bernie Sanders aux États-Unis. Et puis Louise Bernard nous présentera le nouveau spectacle de Nonel Jacksman. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En novembre prochain aura lieu la 59e élection présidentielle aux États-Unis et les artistes ont choisi leur camp. Explication avec Angèle Châtelier pour la suite de Culture Média, Philippe. Mais ce n'est pas la seule. Autour de la table, il y a aussi Louise Bernard et votre invitée ce lundi, l'actrice Anaïs de Moustier.
Alors, je ne l'ai pas dit, Anaïs de Moustier, une des forces du film, si je l'ai dit, réside dans le fait qu'on ne sait pas si Lise a réellement ou non tué sa copine. Et vous-même, oui. Comme vous êtes l'accusatrice, est-ce que vous-même vous étiez persuadée de sa culpabilité ?
Moi, je me suis convaincue et persuadée de sa culpabilité puisque c'était mon rôle au sein de la cour d'assises de l'accusé. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, ce qui est, je trouve assez passionnant dans le film, c'est qu'on vit l'expérience vraiment d'un juré et que c'est un procès dans lequel il n'y a pas de preuves irréfutables et donc le doute persiste. Et donc c'est un film sur l'intime conviction.
Les figurants dans le film étaient des vrais figurants. Je veux dire par là qu'ils n'avaient pas lu le scénario.
Oui, ils n'étaient pas au courant du déroulement du procès et les jurés non plus.
Et donc, est-ce que vous essayez de les convaincre ?
Complètement. Ouais, moi, vraiment, c'est ça qui est génial, c'est que le dispositif faisait qu'on avait la sensation, comme on tournait aussi de façon chronologique, ouais. On avait la sensation, en tout cas nous les avocats, l'avocate de la défense qui était jouée par Annie Mercier et moi, qu'on avait vraiment un auditoire et qu'il fallait les convaincre. Et il y avait une vraie écoute de leur part. Et souvent, entre les prises, ils venaient nous voir et disaient « Mais là, qu'est-ce qui va se passer demain ?» et tout. Enfin, ils changeaient d'avis. Il y avait des moments où ils pensaient qu'elle était coupable et puis le lendemain, ils disaient « Non, je pense qu'en fait, elle est innocente. » Donc c'est génial parce que cette chose-là, il l'a conservée au montage et il y a un équilibre. Et donc en tant que spectateur, on vit la même chose quand on voit le film.
Est-ce que vous avez tourné dans des vrais décors, un vrai palais de justice ? C'est le palais de justice de Nantes, oui. Designé par Jean Nouvel.
Oui.
Et cette salle, alors juste, quel effet ça fait ? Parce que c'est très frappant, cette salle d'audience rouge sang.
C'est incroyable. C'est un lieu qui est plein d'une énergie très spéciale. On sent qu'il s'est passé des choses. Et puis c'est vrai que être dans un lieu clos, sans fenêtre, intégralement rouge pendant plusieurs semaines, ça fait de l'effet. Donc c'était bien, c'est un lieu qui est très chargé, qui est très beau, même le hall et tout ça, il y a quelque chose de très, déjà carcéral presque dans ce palais de justice. Et mon frère voulait un palais de justice moderne, qui raconte une justice moderne, pas celle des boiseries, des dorures, comme on a l'habitude de voir dans les films de procès.
Vous êtes, ça n'a rien à voir, vous êtes déjà engagé en politique ? Vous avez déjà soutenu un candidat ?
Non, de façon publique, non, jamais.
Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour.
J'en parle parce que ce sera notre sujet. Il a 78 ans. Bernie Sanders, est-ce qu'il sera le futur président des États-Unis ? Il est en route pour la primaire démocrate. En tout cas, lui, il compte sur les artistes. D'où ma question à Anaïs de Moustier. Il compte sur les artistes pour y parvenir.
Oui, alors les Américains en campagne, c'est toujours quelque chose. Et à chaque fois, des artistes viennent chanter pour montrer leur soutien. On se souvient par exemple de Beyoncé chantant à l'investiture du second mandat d'Obama ou bien de Bruce Springsteen qui s'est toujours affiché fervent défenseur de l'ancien président. Et puis il y en a pour d'autres, enfin pour qui c'est plus difficile de convaincre les artistes de venir. Ça a été le cas de Donald Trump pendant sa première campagne. Un artiste de country, Toby Keith, avait bien affiché son soutien au président. Mais alors Donald Trump avait aussi utilisé des musiques pour ses meetings et de nombreux artistes lui avaient interdit de le faire. C'était le cas des ayants droit de Prince alors qu'il avait utilisé Purple Rain. Et cette année, Bernie Sanders, effectivement, compte bien sur les plus grands groupes de musique pour arriver à lever les foules et l'inciter à voter pour lui. Le démocrate est en campagne et la semaine dernière, deux artistes sont venus à l'un de ses meetings, le planant Bon Iver tout d'abord. Justin Vernon, de son vrai nom, a offert un concert acoustique de 35 minutes, ponctué par une reprise non sans message de The Time They Are Changing, pardon, de Bob Dylan. Les temps sont en train de changer. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. Il y a aussi la rappeuse Cardi B qui a affiché son soutien à Bernie Sanders, qui s'est aussi affiché aux côtés de la pop star Ariana Grande. Et puis il y a le groupe américain Vampire Weekend qui est venu jouer. Et ce soir, c'est un groupe de rock anthologique qui jouera au meeting du candidat démocrate. Ça sera dans le New Hampshire et c'est les Strokes. L'affiche du meeting de ce soir est d'ailleurs équivoque. On y voit le logo des Strokes qui est repris avec inscrit dedans le nom Bernie Sanders. Il y a une esthétique futuriste et de science-fiction. Les Strokes sont considérés depuis 2001 et leur album Idiocies comme l'un des meilleurs groupes de rock qui a su remettre le genre au goût du jour à l'époque, avec des guitares un peu sales, un peu brutes. Philippe, je sais que vous voyez de quoi je parle.
Très très bien.
Et la voix de Julian Casablancas, devenu lui aussi une icône.
Un peu sale, un peu brut.
Et oui, et c'est d'ailleurs pour ça que quand le groupe a annoncé une date à l'Olympia le 18 février, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les 2000 places se sont vendues en quelques heures, laissant beaucoup de fans sur le carreau.
Mais ils ont toujours été engagés, les Strokes ?
Je me suis un petit peu renseignée. Les Strokes, en tant que tels, pas vraiment, mais leur leader, Julian Casablancas, oui, beaucoup. Notamment avec l'autre groupe qu'il a, qui s'appelle The Voids, qui est un peu comme sa cachette, son moyen de faire un peu plus ce qu'il veut sans la pression du succès. Donc un engagement fort qu'il fera ce soir avec son groupe Les Strokes au meeting de Bernie Sanders.
Merci Angèle. Anaïs de Moustier, une réaction sur ces artistes qui s'engagent ?
C'est bien. Moi j'aime beaucoup Julian Casablancas et The Strokes. Je pense qu'il y a ma gueule. J'ai qu'une envie, c'est d'aller à l'Olympia.
C'est
vous
vrai.
Avez pas votre place.
Vous avez des places ou pas ?
Non. Je dois partir en vacances. Enfin, il faut que j'emmène ma fille en vacances.
D'accord.
Donc, je vais pas y aller.
Et puis justement, parce qu'on était avec le scénariste de Baron Noir, ça avait produit l'effet inverse, la dernière élection. Toutes ces stars qui étaient venues soutenir Hillary Clinton contre Trump, ça avait mobilisé l'électorat de Trump qui s'était senti snobé par ces milliardaires qui arrivaient en avion privé de Los Angeles. Hillary Clinton a perdu l'élection, comme quoi la politique, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine.
Oui. 9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Philippe Vandel, vous êtes entouré ce matin par l'actrice Anaïs de Moustier et par Louise Bernard qui a un nouveau one-man show à nous présenter.
Est-il possible d'être mieux entouré ? Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous conseillez le nouveau spectacle de l'humoriste Donnell Jacksman. Ça s'appelle « Ensemble ».
Salle noire, c'est à partir de cette insulte raciste que Donnell Jacksman a construit son nouveau spectacle. Alors il faut du talent pour y parvenir et ça tombe bien car il en a et beaucoup. Petit retour en arrière, en décembre 2018 à Nice, Donnell Jacksman est sur scène. Il joue son précédent spectacle et alors qu'il parle du FN, un spectateur l'insulte.
Salle noire. Pardon ?
Salle noire.
Pardon ?
Voilà, trois fois quand même. Donnell parvient à garder un calme plus
juste
qu'admirable.
Juste un mot, ça c'est le document de l'époque ?
Oui, voilà.
Alors, où il l'a reconstruit.
Justement, si vous pouvez entendre ce son, c'est parce que la scène est filmée par une spectatrice qui envoie la vidéo à l'humoriste. Il décide de la poster sur ses réseaux sociaux et elle devient virale. Donnell Jacksman, il reçoit alors un soutien unanime et donc paradoxalement, ça met un vrai coup de projecteur sur lui.
Et donc, c'est ça qu'il a décidé de raconter sur scène.
Oui, alors il remercierait presque cet homme qui l'a insulté pour toute la promo que ça a fait. D'après lui, on n'a pas trouvé meilleur attaché de presse depuis Manuel Valls pour Dieudonné.
Ça, c'est vrai.
C'est ça. Mais surtout, en repensant à cet incident, je dis quand même, cette histoire est totalement improbable.
Quand même, ça veut dire que le mec, il a vu mon affiche. Il y a un peu de suspense avec moi. Plus noir que moi, c'est la nuit et Omar Sy. C'est un moment. Ça veut dire que le mec, il a vu mon affiche, il a payé sa place, il est venu au théâtre, il a kiffé une demi-heure. Après, il a dit, mais il est noir, lui, là.
C'est vraiment un bon exemple d'utilisation de l'humour avec intelligence. On fait passer des messages, mais sans oublier que le public est quand même venu avant tout pour rire. Ce spectacle, c'est sa manière à lui de répondre.
Dans mon style, j'ai toujours mis des messages derrière mes blagues. Donc je me suis dit, là, c'est le moment idéal pour traiter ce sujet-là, sans le dédramatiser, mais sans non plus en faire le sujet de l'année, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme non plus, c'est juste quelqu'un qui s'est fait insulter. Et encore, moi, je suis connu, donc ça a eu une résonance assez forte, mais les gens se font insulter tous les jours dans l'anonymat. Les gens vivent des plus grandes stigmatisations dans l'anonymat. Moi, je me suis fait insulter. Le soir, j'étais à l'hôtel. Le lendemain, j'étais en train de jouer sur scène. J'ai eu l'appel d'Emmanuel Macron. C'est vraiment un racisme de luxe, ouais.
Oui, racisme de luxe, vous l'avez entendu. Ouais. Il a reçu un appel d'Emmanuel Macron. Forcément, ça lui a inspiré un sketch. Alors, quand les humoristes parlent du président, c'est souvent drôle, mais pas très original. On s'attend à ce qu'il tape dessus, à ce qu'il égratigne un peu. Là, c'est beaucoup plus subtil et c'est ça qui est vraiment réussi.
J'ai eu le soutien du président de la République. Hein, je suis pas fan de Macron. Pour moi, sa politique, la moitié, il y a chier, tu vois. Et j'aimerais jouer l'artiste rebelle. Tu sais, moi, rien à foutre du président. Mais quand il m'a appelé Macron, j'étais comme ça. Allons, enfants de la patrie, jour de gloire. Dans ma tête, j'étais en match d'équipe de France. Comme ça, j'étais prêt à rentrer dans le terrain. Allez, comme ça. J'étais chaud, j'étais loin. Pour moi, c'était petit four à l'Elysée, Légion d'honneur. Dans ma tête, j'étais en mode Mamadou Gassama, il y a un bébé, un balcon. Je vais aller avec les dents chercher cet enfant.
Voilà, ouais, je vois que ça vous fait beaucoup rire. Ouais, je vous parle d'un autre coup de fil qu'il a reçu, celui du ministre de l'Intérieur.
Christophe Castaner. Monsieur, un jour une connerie, tu vois lui là. Il m'a soutenu, le ministre de l'Intérieur. Quand t'es noir et banlieusard, et que le premier flic de France te dit je te soutiens, moi j'ai entendu jeter à l'œil. C'est pas bien.
Alors, cette histoire, elle lui sert de fil rouge pour aborder plein de thèmes. Par exemple, quand il a posté la fameuse vidéo, certains internautes l'ont accusé d'avoir lui-même organisé la scène. Donc, ça lui permet de faire un sketch sur les complotistes. En résultat, ça donne un spectacle vraiment très riche où il peut passer d'une vanne sur sa mère à décrypter des paroles de chansons de Michel Sardou. Mais toujours avec ce fil rouge de Nice, donc c'est très bien construit. Il interagit avec le public, mais de manière bienveillante. On sent qu'il aime la scène, il a le sens du rythme et de la punchline, du pur stand-up comme on aime. Ensemble de Donald Jacksman, c'est à voir à la Comédie de Paris du jeudi au samedi jusqu'à fin mars, le 27 mars à Angers, le 2 avril à Lille, le 8 à Marseille, le lendemain à Cannes et il y a d'autres dates de tournée.
Merci beaucoup Louise. Ce soir, vous ne pouvez pas Anaïs de Moustier parce que vous êtes au concert des Strokes, mais ça vous tente, ça vous a fait marrer,
oui,
en tout cas comme nous.
Drôle,
on va dire la vérité, Justine et moi, on rigolait comme des idiots.
Non, en fait, ça fait froid dans le dos. En fait. Moi, c'est le scène noir, ça m'a vraiment fait froid dans le dos de l'entendre.
Ouais, là, c'est hyper
direct. Et puis après, il arrive à rendre sa vertu, quoi, donc c'est chouette.
Et comment il rebondit dessus? Voilà, la politesse des espoirs. Merci beaucoup, Louise Bernard. Vous restez avec nous ou pas?
Bien sûr.
Mais quelle joie.
Dans un instant, ce sera déjà la dernière partie de Culture Média. Aujourd'hui, c'est Anaïs de Moustier qui reste avec nous jusqu'à 11h. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Philippe Vandel, Culture Média se termine avec Louise Bernard et votre invitée de ce début de semaine, Anaïs de Moustier, qui est à l'affiche du film La fille au bracelet qui sort ce mercredi.
Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un background dans ce film. Il y a une description de la sexualité des ados qui fait quand même un peu froid dans le dos.
Oui. C'est effectivement le film est l'occasion de faire aussi le portrait d'une génération, ouais. Et c'est vrai que le point de vue du metteur en scène, donc qui est mon grand frère Stéphane, c'est aussi de scruter une jeunesse qui lui échappe, voilà, qu'il ne connaît pas, qui est comme un mystère pour lui et pour nous tous. Donc effectivement une jeunesse avec l'arrivée des réseaux sociaux qui a une sexualité peut-être plus libre que ce qu'on imagine et le père dans le film qui est interprété par Roche Dizem découvre à l'aune de ce procès tout un pan de la vie de sa fille qui lui échappe et qui le surprend et qui l'étonne.
Moi j'ai découvert un pan de la vie des ados qui m'échappait complètement, ouais. Je ne savais pas, j'en étais resté à Love in Fun tard le soir,
ouais.
Mais maintenant je ne savais pas que ça se passait comme ça et qu'on pouvait faire des fellations comme ça pour faire un jeu avec un pari avec sa copine.
Oui, il paraît que c'est très courant. En fait, mon frère avait des consultantes jeunesse et il demandait à ses babysitters de lire le scénario et les différentes versions de scénario,
ouais.
Pour leur demander si ça leur ressemblait juste et tout ça. Elle me disait, ah ouais, mais carrément, il y a tout le temps des... Et puis c'est vrai que les vidéos, les sextapes qui jaillissent comme ça au milieu du collège, du lycée, apparemment c'est monnaie courante. Donc là, c'est une jeunesse libre, mais avec une nouvelle violence, je pense.
Exactement. En dehors d'un film avec Manu Payet qui était Situation amoureuse, c'est compliqué, et Sauvé ou périr, c'est un film comique. Vous êtes une spécialiste de cinéma d'auteur ou pas du tout? Ça s'est fait comme ça? Je
ça
citais toute
ça.
Votre filmo avec des noms prestigieux. C'était un choix de votre part?
Oui.
Ou...
En fait, j'ai toujours fait des choix, mais de façon assez intuitive et voilà, par rapport à mes goûts et à mon envie et mon désir.
Parce qu'à la
mais
base...
c'est vrai que je pense que d'avoir commencé avec Haneke, ça a orienté ma filmographie, peut-être vers des cinéastes qui sont avant tout des auteurs.
Mais à la base, vous étiez une cinéphile, abonnée au cahier ou rien du tout?
Non, mais j'avais 13 ans quand j'ai commencé, donc moi, je n'étais pas abonnée au cahier.
Non, mais de vos parents. Mes parents étaient abonnés au cahier.
Non, mes parents, pas du tout cinéphiles. Ils n'étaient pas spécialement spectateurs de cinéma. Ma mère le devient aujourd'hui. Elle voit beaucoup, beaucoup plus de films que moi, mais à l'époque, pas trop, non.
Et ce qui est dingue, c'est que votre frère vous a sauvé la vie par rapport à votre maman. Il faut raconter cette anecdote qui
Comment
est quand même
ça,
tellement
par rapport
belle.
À ma maman.
Mais votre maman, elle voulait pas que vous fassiez sauter un devoir de maths.
Ah non, c'est moi. Non, ma mère vraiment est parfaite. Hein, ne lui reprochez
c'est
pas
vrai.
Ce qu'elle n'a pas. Non.
Elle est parfaite. Elle n'achetait pas des techniques break.
Non.
Donc, c'est limite aussi. Hein.
Non, en fait, je devais passer les essais pour un EQ.
Ouais.
Et j'avais un devoir de maths le jour du casting. Et comme moi, j'étais très bonne élève et très sérieuse, c'est moi en fait qui voulais pas. Et je disais non, mais je vais pas y aller parce qu'il y a ce devoir de maths très important et tout. Et c'est mon frère qui lui connaissait un peu plus le cinéma que mes parents. Qui a entendu parler de ses essais pour Haneke et qui a dit non mais elle y va, il faut qu'elle y aille quoi qu'il arrive. Donc qui m'a sauvé la vie puisque ce film, c'est vrai, a changé beaucoup de choses pour moi et a fait naître mon désir de cinéma.
Vous avez quel âge à Cannes quand vous allez à la Projo qui se fait siffler?
14 ans, je pense. Ouais, 14.
Et vous le vivez comment? Vous dites on est chez les dingues, vous, vous prenez ça comme un concert punk?
Non, je vois, on est chez les dingues, je comprends pas du tout le principe de hurler dans la salle alors qu'on est à Cannes. Je me dis que c'est quand même le temple du cinéma, donc je comprends pas. Et en fait, on m'a expliqué de façon très pédagogique que voilà, le film était controversé, que c'était aussi le plaisir d'Haneke de faire un film qui plaît pas à tout le monde et que les gens à Cannes peuvent manifester leur mécontentement ou leur soutien, parce qu'il y avait aussi des gens qui du coup se levaient, applaudissaient en réponse à ceux qui sifflaient. Enfin, c'était incroyable comme projection.
En parlant de controverse, vous allez aller à la cérémonie des Césars?
Oui.
Je dis ça parce qu'il y a des associations féministes qui ont dit qu'il ne fallait pas y aller et qu'il fallait boycotter. Ce n'est pas votre cas. Vous pensez quoi de cette affaire Polanski? D'abord, est-ce qu'on en parle trop, pas assez? Quel est votre point de vue là-dessus?
Moi, je trouve qu'on en parle trop. Je préférerais que ça n'existe pas, mais il se trouve que c'est comme ça. La chose positive dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après MeToo, un avant et un après voilà, toute cette période qu'on est en train de traverser. C'est une question très complexe et
vous-même,
il faut s'attaquer à ces questions.
Est-ce que vous avez déjà subi des problèmes de harcèlement avec des réalisateurs, avec des producteurs?
Pas du tout, jamais. Jamais, franchement. J'ai été un moment très mal à l'aise avec une réalisatrice. Donc c'était un abus de pouvoir d'une autre manière, mais c'était une femme. Sur un film qui mettait en scène des scènes de sexe très... Voilà, enfin, qui allaient assez loin. Et j'étais vraiment pas du tout protégée par elle. Mais c'était une femme... Après j'ai eu des réflexions, j'ai eu des réflexions, je me souviens qu'un producteur m'avait dit bah non mais t'es super, tu joues super bien, mais le problème c'est tes seins. Voilà. Et en fait c'est fou, c'est que c'est tellement ancré en nous qu'en fait on se rend pas compte. À l'époque j'étais très jeune, je pense que j'avais 21 ans et je m'étais vraiment dit ah merde putain le problème c'est mes seins et tout, parce que j'avais pas assez de gros seins, parce que c'était un film sur Renoir donc il fallait avoir une forte poitrine, je correspondais pas au modèle de l'époque. Donc ça je le réalise en fait au fil des entretiens, parce que comme on me parle beaucoup de ça, cette anecdote par exemple elle m'est revenue, mais après quelques années, à l'époque je m'étais pas offusquée, c'est ça qui est un peu grave.
D'un mot, vous faites partie des nominés pour les Césars.
Oui.
C'est avec quel film?
Alice et le maire de Nicolas Pariser.
C'est le film avec Luchini?
Oui.
Super, Gérard Collomb va nous regarder. Merci beaucoup, merci. Anaïs de Moustier, d'avoir été avec nous. Je rappelle, La fille au bracelet, film de Stéphane de Moustier, c'est votre frère, comme ça on l'a dit. Ça sort mercredi et je recommande ce film pour l'avoir vu. Merci à tous, merci Louise Bernard, merci Justine Holman. Nous, on va se retrouver demain à 9h pour Culture Média avec Martin Veil pour un nouveau Prime sur TMC. Faut-il interdire le tourisme? Le genre de question que j'adore parce que je suis d'accord avec ça et je suis pas d'accord avec ça. Et puis Frédéric Bell pour parler de sa riche actualité, un film à l'affiche, un autre en préparation, une série. Et elle-même, Frédéric, elle est d'accord avec elle et pas d'accord avec elle. Ça fait ma joie, ça aussi. Je vous dis à demain. Bonne journée sur Europe 1.
Merci beaucoup.